Théma, le magazine pour faire le tour en une heure de l'actualité.
Théma.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 48FM, une émission assez particulière puisque nous sommes actuellement en direct de l'espace événement Georges Fraisse à Mende pour le Salon du vin et du terroir 2026. On va revenir avec plein d'exploitants agricoles, plein d'invités pendant une heure sur ce salon et cette édition. Avec moi justement pour m'accompagner et poser plein de questions aujourd'hui, Eric, comment tu vas ?
Ça va, oui. Bonjour les gens.
Et puis également, on a déjà pas mal d'invités autour de la table, dont Guy Salaï, le président des Sarmentelles, qui organise cette édition. Bonjour Guy.
Bonjour.
Ça va bien ?
Ça va. Oh ben moi, c'est mon milieu.
Et puis également, déjà deux invités qui nous présenteront leur cuvée. Mathieu Fréchet, qui est du domaine du Massereau à Sommières dans l'Hérault. Bonjour.
Bonjour.
Et puis Clotilde, qui est aussi dans l'Hérault pour le domaine Asquiro. Bonjour Clotilde.
Bonjour à tous.
On va après revenir un peu sur vos bouteilles, mais peut-être juste pour commencer, vu que le salon a débuté hier, peut-être Guy, un mot sur ce lancement de salon, édition 2026, comment ça s'est passé hier ?
Voilà, les Sarmentelles, on est content d'accueillir la 17e édition du Salon du vin et du terroir, parce que je crois que c'est une manifestation qui a pris sa place dans le calendrier des Mandois et des Lozériens, une manifestation qui présente tout son intérêt par justement la diversité des participants, aussi bien au niveau des viticulteurs, avec des nouveaux domaines. Et on en a l'exemple là, on va faire une intervention justement avec deux nouveaux domaines, ça me plaît beaucoup. Mais également après on a des producteurs qui nous viennent de Lozère, mais aussi des départements voisins. Donc vous voyez finalement, on allie ici la culture, mais avec le patrimoine et la gastronomie.
Ça, justement, il y a vraiment une idée de se dire que tous les ans, pas forcément on essaye, mais ramener des nouveaux producteurs, des nouvelles saveurs, des nouveaux goûts, c'est aussi l'idée.
En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la consommation, elle évolue par phase. Et on peut dire que c'est un peu comme le multimédia. Hein. Au bout de 5 ans, on est un peu dépassé. Donc ces modes-là, il faut aussi les comprendre, les accepter, vivre avec, mais peut-être anticiper et aller vers d'autres choses. Et justement, les préoccupations des nouveaux exploitants, des nouveaux viticulteurs, nous amènent à réfléchir un petit peu sur ce qu'on connaissait et sur ce que l'on doit aussi essayer de s'orienter pour satisfaire le marché. Parce que la finalité, c'est quand même faire du produit, mais c'est aussi de l'écouler. Voilà.
Le but, c'est de mettre surtout en avant l'Occitanie.
Alors voilà, nous, c'est le parti qu'on en a pris, c'est travailler sur la région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée. Mais on ne peut pas oublier quand même nos voisins. Alors par exemple, on voisine avec le Beaujolais. Donc à mon sens, c'est intéressant aussi de faire parfois des comparaisons là-dessus. Mais c'est intéressant également de remonter un petit peu plus sur le Val-de-Loire, etc. Mais effectivement, la base même, c'est l'Occitanie.
Et justement, l'Occitanie, peut-être, c'est une terre qui est plutôt... Est-ce que les vins se ressemblent en Occitanie ou justement, on a la chance d'avoir des terres super hétérogènes ? On va les goûter peut-être juste
si
après.
Si vous voulez, c'est quand même en Occitanie qu'on a la plus grande aire de production, oui, avec une diversité d'appellations qui est particulièrement importante. Et ces appellations-là, elles sont quand même des richesses pour nous. Je ne dirais pas que je combats les vins de France, mais j'aime bien quand même savoir dans quelle région je suis quand je déguste quelque chose pour pouvoir mieux l'accorder, mieux l'acheter, mieux le conserver, mieux l'accorder. Donc déjà ça a de l'importance. Et après... je fais partie de cette école où on nous a appris qu'il y avait une classification napoléonienne et si elle existe, c'est qu'elle a une raison. Et elle est refusée par certains endroits puisqu'on voudrait la réviser. On va tirer à boulet rouge sur les Bordeaux. Les Bordeaux refusent qu'on revienne sur cette classification-là. Et ils ont peut-être intérêt à la refuser parce qu'il y aurait peut-être à revoir.
Oui, là, on est avec deux jeunes producteurs. Est-ce que le terroir, ça faisait déjà partie de votre idée quand vous vous êtes installé ? Vous étiez déjà sur place ou c'est le terroir qui vous a attiré ?
Alors, Clotilde.
Donc, nous, notre installation s'est faite par notre père en 2008 quand il a commencé à se passionner pour la vigne. Donc, c'est un néo-vigneron. Il a démarré avec des petites surfaces. Et à ce moment-là, le terroir, mais avait une importance, mais c'était aussi, enfin, la localisation, parce que c'est chez nous, donc on va dire que c'était pas, on n'était pas à la recherche d'un nouveau terroir, puisqu'on souhaitait s'ancrer chez nous, donc dans le Languedoc et dans notre village.
Et Mathieu ?
Alors, je trouve que cette question, je me la suis posée en fait dès le début, parce que j'ai une vie j'ai plusieurs vies dans ma vie. Et finalement, moi, c'est le terroir qui m'a appelé. En tout cas, c'est la terre qui m'a appelé. Et alors, bien, j'ai repris un domaine familial. J'ai eu cette chance de pouvoir en fait, reprendre l'exploitation viticole de mon grand cousin. Mais j'y ai pas. Je l'ai découvert là, il y a seulement 2 ans. Et donc, c'est vraiment un appel de la terre. En fait, on s'y sent bien. Il y a quelque chose qui se joue sur place. On a envie d'habiter le lieu, on a envie d'y prendre part, on a envie de faire quelque chose là. Et quoi de mieux que faire ça par la terre, par la vigne et par la transformation du fruit, du végétal.
Alors ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, j'ai voulu amener à cette table-là ces deux nouveaux domaines, ces deux jeunes domaines. Mais ils ont quand même une connaissance derrière, parce que Clotilde, au niveau donc...
Mon métier principal, je suis ingénieur agronome et œnologue, et donc ça fait plusieurs années que j'accompagne des exploitations en tant que consultante. Et bon, là, c'était le galop d'essai pour se confronter à la réalité de terrain et faire nos propres vins pour ce premier millésime. Donc,
c'est parfait, merci. Et Mathieu aussi, qui disait j'ai plusieurs vies, mais lui et sa compagne. Voilà, il va nous dire 2 mots là-dessus.
Oui, alors moi, je suis issu d'un cursus. En fait, je suis ingénieur en génie civil, initialement. J'ai exercé ça pendant plusieurs années, pendant 7 ans. Donc, j'étais sous terre, je construisais des tunnels. Je suis remonté un petit peu au-dessus. Pendant plus de 5 ans, j'ai travaillé en agriculture sur de la plante aromatique, médicinale, de la céréale, de la boulangerie, de la formation dans le milieu de la gastronomie pour introduire les plantes sauvages et les plantes aromatiques dans le milieu de la gastronomie, et puis pour travailler le processus créatif. Et c'est seulement à partir de là où je me suis lancé dans le vin.
Bon, peut-être qu'on pourrait essayer de le goûter, ces vins. Hein.
Alors qu'on en parle,
je leur ai demandé d'apporter une de leurs fabrications. Clotilde, elle travaille sur 2 types de vins, un blanc et un rouge. Et au niveau du blanc, bon, c'est du Viognier. Vous avez vu, elle est radine quand même, mais bon, tant pis, hein. On va suffire à ça. Hein.
C'est un petit domaine, Clotilde,
il faut faire attention. Hein.
On n'a que 2400 bouteilles sur ce blanc, donc...
Oui, d'accord. Voilà, alors, on n'a pas le glouglou que l'on connaît d'habitude, mais tant pis. Hein.
Hop,
ça, voilà. Alors, effectivement, il y a un petit blanc parce qu'on est en train de distribuer les verres, voir
oui,
un petit peu.
Oui, c'est pas très radiophonique, mais on est en train de servir les verres, c'est pour
voilà.
ça que...
Vous voulez que je vous fasse le bruit du bouchon? Mais la bouteille était ouverte un peu à l'avance. Alors, Clotilde, qu'est-ce que...
Oui, voilà, ça vous... Pourquoi vous pouvez un peu présenter... Oui.
Pardon.
Non, mais c'était la même question. Est-ce qu'on peut avoir une petite présentation de qu'est-ce qu'on a dans le verre?
Oui. Donc ici, vous avez un 100% Viognier. C'est une sélection parcellaire parce que c'est seulement quelques rangs d'une parcelle de Viognier que l'on a sélectionné spécialement pour faire cette cuvée. Donc, qui est notre toute première cuvée, donc vendangée fin août 2025. On peut peut-être regarder au nez ce qu'on a. Bon, ou alors déjà la robe qui est assez claire et limpide avec des reflets un peu verts, si vous les avez. Et donc nous, le Viognier, c'est un cépage qui est assez plastique, qui a l'intérêt d'être aromatique, mais qui peut avoir plusieurs facettes selon les dates de vendange, qui sont assez essentielles pour jouer sur les profils qu'on souhaite avoir. Donc souvent, on connaît le Viognier sous sa forme très abricotée qui peut être amené jusqu'à des surmaturations. Nous, on a pris le parti de le vendanger un tout petit peu en sous-maturité pour avoir davantage de fraîcheur et vraiment exprimer le citron et des arômes de fleurs blanches. Donc, après, à chacun de voir ce qu'il a dans son verre parce que quand ça concerne les vins, chacun a un vocabulaire différent. Mais en tout cas, on a souhaité avoir une certaine fraîcheur et un côté agrume sur ce vin qui peut être un vin qui peut s'apprécier jeune. Donc là, nous, on l'a mis en bouteille il y a 2 mois et c'est un vin qui déjà se consomme pour le printemps, pour l'été et qui a une fraîcheur en bouche. Donc là, peut-être je vous laisse voir ça.
Ben, en général, les Viogniers, vous le savez, elle l'a dit, hein, ils sont très abricotés, un peu sur le noyau de l'amande, des choses comme ceci. Mais... on a une richesse, un petit peu, une certaine sucriosité, si on peut dire, sur les traditionnels Viognais, alors que là, on est plutôt sur un Viognais un tout petit peu sec. Donc, c'est un peu la modernité
de
ce cépage.
Il est totalement sec.
Voilà.
Il y a 0 gramme de sucre.
Voilà. Mais on va dire également que les vionniers, le cépage a été revu il n'y a pas très longtemps, puisque la région Occitanie n'avait plus de vionniers. Et en 61, l'INRA a invité les viticulteurs à reprendre un petit peu et ils ont refait un griffon, si on peut dire, qu'ils ont remis. Donc en fait, les vionniers qu'on va trouver sur, par exemple, la vallée du Rhône ou autre sont, on va dire, de l'ancienne génération. Et ici, c'est une évolution, une mutation de ce vionnier-là, mais qui est rentré dans les mœurs comme un vionnier classique. Donc il y a la petite différence, voilà. Ici, on est quand même sur une réalisation un peu moderne du vin qui est dans l'actualité de la consommation actuelle. Mathieu, t'en penses quoi, toi ?
Alors moi, ce vionnier, je l'ai dégusté hier.
Oui, dans des grands verres.
Dans des grands... Oui, exactement. avec Clotilde. Et bon, je vais être franc, je suis un peu tombé à la renverse. J'en ai pris plusieurs bouteilles. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. Et pour moi, c'est inspirant. Et je pense que ça va inspirer mes prochaines cuvées.
Mais c'est gentil.
C'est bien alors.
Pour une première cuvée, un premier salon, puisque vous nous avez choisi, et c'est très important pour nous d'accueillir ces nouveaux et qui se lancent et qui n'ont pas peur avec les difficultés rencontrées dans le monde viticole actuellement, de voir des jeunes comme ça qui ont de la passion, de la volonté et qui ont envie d'explorer de nouveaux domaines. Et je trouve qu'effectivement, ce vin est particulièrement frais, vivifiant et qui apporte un nouveau domaine dans le vin et dans le Vionnet, dans une autre façon de le lire, de le voir. Et bravo, félicitations.
Merci.
Mais Clotilde, c'est vrai que c'est un vin qui, effectivement, les agrumes, moi, je les ai eu, le citron, etc. Mais est-ce que là, c'est aussi dans le sens de la nouvelle consommation, notamment, je pense, plus des plus jeunes qui veulent souvent plutôt un vin d'apéritif, etc. Bon, en tout cas, je le verrais bien comme ça chez moi, mais ou est-ce que vous vous dites que non, il peut aussi s'accompagner autour d'une table avec un bon repas
Nous, dans l'idée qu'on a conçue donc avec ma sœur, quand on a réfléchi à ce vin, donc ma sœur qui a 2 ans de plus que moi, on a réfléchi à nos moments de consommation du vin et on voulait aussi s'adresser, en tout cas nous, notre premier terrain de jeu, c'est nos amis et voir qu'est-ce qui plaît aujourd'hui. On voit qu'il y a beaucoup de vins qu'on a envie d'ouvrir dès l'apéritif et donc il faut des vins qui soient suffisamment frais et aussi en teneur en alcool qui puisse être correct pour être ouvert dès 18h, voilà, seulement avec 2-3 cacahuètes. Donc on voulait un vin qui soit aussi un peu décomplexé, sans chichi, ce que je pense qu'on a pu faire ici. Après, au-delà de l'attention, on a aussi travaillé un bâtonnage d'Eli qui permet d'avoir une certaine rondeur en finale, qui fait que c'est un vin qui a aussi un peu de fond et de structure. Donc il y a aussi une texture en bouche. On n'est pas que sur le nez qui est très aromatique, mais il y a aussi un peu de profondeur qui en fait un vin qui peut accompagner un début de repas. Bon, moi, maintenant, j'ai un parti pris. J'en déguste assez fréquemment et je l'accompagne avec beaucoup de plats divers. Mais en tout cas, ça fait un vin d'apéritif qui accompagne pour moi des débuts de repas. Assez polyvalent.
Moi, personnellement, je trouve qu'il y a une palette aromatique déjà, dès la prise en bouche, qui est très intéressante. Donc, c'est aussi ça qui va nous apprendre à mieux le connaître, ce vin-là. Et puis, c'est assez exceptionnel d'avoir une belle petite longueur pour un blanc. Cette longueur en bouche, ce petit goût que l'on garde. Et cette espèce d'identité, si on peut dire, c'est vraiment l'identité de terroir, j'ai envie de dire. On comprend que c'est fait localement, que c'est fait sur quelque chose de voulu, quoi. Il y a ce parfum qui revient et qu'on garde. C'est tout ça qui me plaît. Alors, moi, je pense que c'est un vin qui est dans la modernité ou dans la consommation actuelle, mais c'est un vin qui pourra s'inscrire dans la durée aussi. Par contre, je suis un peu dans l'attente de savoir si c'est un vin qu'on va pouvoir conserver longtemps. On va dire les blancs, ça ne se conserve pas en général, surtout sur la région Occitanie. Mais est-ce que c'est un vin qu'on va garder jusque, par exemple, sur 3 ans?
Alors, bon, nous, c'est la première fois, donc on n'a pas ce recul-là. Mais nous, on l'a vraiment imaginé pour que ce soit des vins prêts à boire dès la mise en bouteille. Donc là, nous, on les a mis mi-février. Et dans notre idée, on aimerait bien que d'ici l'année prochaine, qu'on déguste le 2026 et qu'on ait plus de 2025 en stock. Donc nous, pour moi, c'est des vins qu'on peut boire dans l'année, où il y a tout intérêt pour vraiment avoir... Nous, on a misé sur le fruit très expressif. Et donc ça, on l'a forcément de manière plus éclatante dans la jeunesse du vin. Après, moi, je suis curieuse de voir ce que ça donnera dans quelques années. Vu qu'il y a aussi cette profondeur, cette structure de bouche qui avait été amenée par les bâtonnages d'Eli, je pense qu'on peut après avoir un intérêt à avoir l'évolution aromatique et qu'il y aura quand même de la tenue pour ce vin. mais moi je conseillerais de le consommer dans les deux prochaines années.
Bon, mais alors on se donne rendez-vous dans 3 ans, hein, on va voir un petit peu.
Parce que j'ai cru comprendre que oui, il n'y en avait pas énormément de bouteilles de ce vin-là. Et vous arriverez à en conserver quand même pendant les deux prochaines années.
En tout cas, nous, on se les gardera de côté à la cave par curiosité. Puis même, je pense qu'il y aura une bouteille historique qu'on ne se permettra pas d'ouvrir jusqu'à avant de nombreuses années pour le côté collector. Mais...
Pour revenir juste un peu sur le domaine, donc là, il y a combien d'hectares de...
Nous, dans ce qu'on a vinifié cette année, il y a 1 hectare, donc c'est vraiment tout petit. On fait 5000 bouteilles, donc 2500 de blanc, 2500 d'un vin rouge, un 100% carignan. Et après, par contre, à l'échelle de l'exploitation, on a 20 hectares qui, aujourd'hui, sont amenés en cave coopérative. Donc là, l'origine du domaine, ça a été nous de reprendre les vignes. Notre père continue à exploiter les vignes, mais avec ma sœur, d'amener l'aventure un peu jusqu'au produit fini et de pouvoir amener jusqu'au vin.
D'accord. Au départ, vous faisiez donc que de la coopérative.
Oui.
Et donc là, avec votre sœur, vous avez décidé d'avoir
faire le vin. Voilà, on a investi l'année dernière dans une cave et c'est le tout démarrage. Donc on commence sur 5000 bouteilles, ce qui est un petit volume, mais quand on voit ce qu'il faut aussi vendre. Et puis c'est un nouveau métier à apprendre de commercialiser son vin. Donc on démarre petit et aussi à échelle humaine. Et
justement, peut-être pour quelle raison vous êtes dit... On va faire différemment du papa et nous on va essayer de faire notre vin avec notre charte graphique, notre idée, notre visuel, notre identité.
Alors on ne s'inscrit pas totalement en décalage par rapport à notre père parce que lui c'était aussi un néo-vigneron. Il a une activité professionnelle principale et il s'est installé en 2008 en se passionnant pour la vigne, en petit à petit achetant plusieurs vignes. Donc il a démarré par moins d'un hectare pour arriver aujourd'hui à 20. Il a toujours son activité principale. Donc nous on a toujours eu ce modèle déjà de la double activité et du travail passionné. On s'inscrit plutôt dans la continuité de ce travail parce que lui ce rêve c'était à la fin de produire son vin. Ce qui était déjà d'arriver à cultiver 20 hectares de vignes, c'était déjà un sacré challenge quand il a démarré à peu près à 40 ans. Donc nous, on s'inscrit plutôt dans la continuité, mais en ayant l'énergie et l'élan à deux, donc avec ma sœur Marie, pour mener à bien ce projet.
Et le nom de ce vin, il a une histoire ?
Alors, voilà, le nom de la cuvée est Complice. C'est sûr que c'est un mot qui est venu très rapidement, même dès l'année dernière, avant même qu'on ait le vin, on réfléchissait un peu à notre identité, aux valeurs et à l'image qu'on souhaitait avoir avec nos vins. Donc Complice, c'est à la fois notre histoire, parce que nous, c'est une histoire familiale. Et là, le projet se fait avec ma sœur, avec qui on a toujours rêvé d'avoir... d'avoir aussi un côté professionnel ensemble et on cherchait des excuses pour passer encore plus de temps et tous les week-ends ensemble. Et donc c'est la complicité familiale, mais c'est aussi un vin qui, pour moi le vin c'est des moments de partage, donc un vin qui s'inscrit dans la complicité, dans le cadre dans lequel il est dégusté. Donc l'idée c'est pas non plus de mettre que notre image en avant, mais que ça soit un vin complice pour les personnes qui le dégustent.
Et vous avez travaillé également beaucoup le visuel. Hein. Je vois que vous avez des étiquettes qui sont très originales et qui ont aussi une histoire. Vous pourriez nous en donner quelques éléments supplémentaires ?
Oui, alors pour ceux qui n'ont pas le visuel, on est sur des étiquettes qui sont avec des lignes de couleurs. Ces lignes-là, en fait, on voulait des étiquettes qui puissent rapidement évoquer le Sud, parce que c'est notre identité d'être dans le Languedoc, Languedoc sous le soleil. Donc c'est des lignes colorées. Ces lignes-là ne sont pas totalement rectilignes. On voulait aussi représenter les rangs de la vigne, mais aussi les liens et les chemins de vie. Donc des fois, il y a des bifurcations, ce qui a été le cas pour les parcours professionnels de chacun dans notre famille. Et le logo, c'est deux chaises longues. Donc la chaise longue qui est pour nous, bon, donc c'est ce qu'on a à la maison et au moment où on passe beaucoup d'apéritifs sur ces chaises longues. Et qui pour nous, quand on est sur une chaise longue, on peut forcément être que dans un moment de détente et de plaisir. Donc c'était ça l'idée. Et c'est beaucoup ma sœur Marie qui, elle, dans son activité principale, en plus d'être ingénieure agro et aussi responsable marketing de vin pour une maison de négoce. Et donc c'est elle qui a beaucoup travaillé sur cette identité-là. Et on avait d'ailleurs nos étiquettes même avant de réfléchir plus précisément au vin, parce qu'on trouvait que c'était important pour nous de déjà savoir où on voulait aller. Et on va dire qu'on a beaucoup réfléchi notre projet et pas laissé au hasard, même si après le raisin exprime, il nous amène là où il veut aller, mais on avait déjà une bonne idée du produit final auquel on voulait arriver.
On change de couleur ?
Et oui, merci beaucoup Clotilde. Allez, je rappelle donc du domaine Asquiro.
On va la garder avec nous parce
voilà,
que
oui. Elle
va goûter du rouge.
Bien sûr, en plus en tant qu'œnologue, je pense que ça, son avis va être super intéressant aussi pour nos auditeurs. Et puis oui, on va passer au vin de Mathieu maintenant. Donc là, on va repartir sur un petit moment pas très radiophonique du moment où on va servir un peu tous les verres. Mais Peut-être que juste avant, tu peux un peu nous parler du vin que tu nous présentes.
Oui, alors ce vin qui est nommé La Tourie, c'est un vin qui est assez symbolique pour moi. En fait, il est issu, il fait partie de la gamme de vins du domaine, de la gamme qui s'appelle Héritage. Et ben, ça parle bien de soi, Héritage, puisqu'en fait, c'est un vin qui a déjà... lui, il est 2022, c'est un millésime 2022. Moi, je n'étais pas encore installé sur le domaine. Et ben, c'est l'occasion là pour moi de parler de toute cette gymnastique, cette mécanique de venir s'installer, en fait, prendre la suite d'une exploitation viticole familiale et qui en fait, il y a des décennies d'activité. Voilà, je peux vous dire que le domaine est dans la famille depuis 1804. Je suis la 7e génération. Donc, comment faire ressortir sa propre identité? On a parlé d'identité avec Clotilde. Mais avec cette base, c'est une sacrée base en fait, familiale, historique, où il y a d'autres identités qui se sont manifestées auparavant. Donc comment s'appuyer là-dessus, s'inspirer de ça, mais tout en se renouvelant. Et donc en fait, ce vin, pour moi, il a cette symbolique de cette démarche, de cette dynamique qui est actuelle. Ça fait à peu près un an et demi qu'elle est en cours, elle va se prolonger. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Et donc La Tourie, c'est un vin d'appellation Languedoc-Sommières. Donc la Sommières, c'est une dénomination de l'appellation Languedoc. Nous sommes à peu près une vingtaine de vignerons à avoir cette dénomination. Il s'agit exclusivement de vins rouges. Et on travaille, on va dire, on passe pas mal de temps à essayer de confectionner des vins qui ont une même ligne directrice. Les vins sont tous très différents. Ils ont chacun leur propre identité, mais il y a une ligne commune. Et ce travail, ça passe principalement par des dégustations syndicales, à l'aveugle, beaucoup de discussions. Finalement, on est une communauté de vignerons très ouverts et où l'avis des autres, la dégustation, le ressenti, en fait, on est friand de savoir ce que les autres vignerons, comment ils se situent par rapport aux différents vins pour pouvoir faire grandir la dénomination.
Voilà. On peut peut-être quand même situer un petit peu le domaine, parce que c'est le domaine de Massereau. Alors Mathieu, il a parlé de bien des choses, mais il a oublié de citer son domaine. C'est également son endroit de production. En fait, il est à cheval sur deux appellations, de définition même de terroir, les terres de Sommières et les Pixelloup. Alors bon, les Pixelloup, on va pas leur faire de la pub, vous les connaissez, donc voilà. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les terres de Sommières, c'est quelque chose qui se réveille. Et personnellement, j'aime beaucoup ce secteur-là parce que je trouve qu'ils n'ont pas exploité d'une façon très commerciale leurs produits et leur aire de production. Il y a beaucoup de belles choses qui vont s'y faire. Il y en a qui s'y faisaient, mais là, on est à monter en puissance sur justement les terres de Sommières. C'est pour ça que je demandais à Mathieu de venir avec un terre des Sommières. Les Pixelloup, je le dis, il en fait, c'est très bon, mais... peut-être essayons de nous intéresser à autre chose, quelque chose qui est un peu moins connu. Et là, il a très bien décrit ce domaine qui est quand même dans la famille depuis 1804. Donc moi, déjà, ça me fait plaisir de voir qu'il y a cette transmission. Ça devient vraiment du vrai patrimoine très resserré. Et puis, du vin rouge, c'est un peu le reflet quand même de l'Occitanie. Alors, j'avais demandé à Clotilde Lemblanc parce que j'ai dit il ne faut pas quand même qu'on montre qu'en Occitanie, on ne fait que du vin rouge. Voilà. Mais voilà, c'est très bien de nous amener ceci. On va peut-être faire glouglou pour voir qu'est-ce qu'il y a dans les verres.
Hein, je vais vous laisser servir, Mathieu. Peut-être pendant ce temps-là, Guy, rappeler un peu les animations de la journée aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, en fait, on va tout simplement poursuivre ce que l'on a pu faire hier. Hier, on avait eu des ateliers. Donc aujourd'hui, Nathan, qui est un phénomène dans la cuisine, est en train de se mettre en place. Dès qu'on a fini les plateaux radio, il va attaquer un atelier. Cet après-midi, il y aura d'autres ateliers qui vont se succéder. L'idée, c'est de présenter des accords mets et vins, mais des choses qui sont réalisables, parce que montrer des grandes définitions de cuisine ou autre, c'est joli pour le folklore, mais c'est pas ce que l'on fait chez soi, alors on est toujours un petit peu déçu. Moi, ce que je veux, c'est que ce que l'on voit là, qu'on puisse le reproduire facilement et aussi arriver à trouver rapidement les produits qu'on va utiliser. Comme on a de très bons produits en Lozère, on va mettre ces produits-là à l'honneur et on va surtout mettre en avant tous ces bons vins. Et ensuite, on va également faire une présentation, et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire moi tout le temps qui va rester, des vins qui ont été primés hier, avec quelques surprises, puisqu'on a un domaine qui se fait remarquer. Alors, c'est un peu dérangeant, mais ça arrive. Personnellement, depuis que je fais des concours, je n'avais jamais vu ça. Ici, on a un domaine qui a emporté 4 médailles hier. Donc, je vous laisse réfléchir là-dessus. Par contre, notre concours à nous, il a été labellisé en 2018. J'avais travaillé 4 ans pour arriver à l'avoir. Il a fallu que je fasse une montée à Paris pour arriver à défendre le dossier. Donc, ça a fonctionné. On est labellisé uniquement en vin rouge parce qu'effectivement, on n'a pas assez de volontaires ou d'intervenants autour de nous pour participer. Mais on a validé quand même 3 familles, les IGP, VDP, donc, qu'on appelle de l'année, c'est-à-dire donc de l'année passée et l'année d'avant, notamment 2024-2025. Après, on a les AOP qui sont dans la même partie des années, donc toujours 2024-2025. Et la troisième, ce sont les VM, les vieux millésimes, qui, eux, ne font plus la différence entre les IGP et les AOP, mais par contre, qui seront de 2023, 2022, 2021, et on remonte voilà, comme ça. Et effectivement, hier, on a eu un souci, c'est qu'on a été submergé par les IGP, mais on a réussi à maîtriser. Et on a été à la limite du dépassement pour les VM, les vieux millésimes. Par contre, pour les AOP, effectivement, pour respecter la réglementation, puisque là, on ne peut donner que 30% des échantillons qui nous sont présentés, les traduire en médailles. Donc, il nous manquait 2 échantillons pour vraiment respecter la réglementation, enfin, ce qui nous a été attribué. Donc, moi, j'ai préféré, je l'ai dit à mes collègues, j'ai préféré que l'on ne fasse pas concourir les AOP 2024-2025, on le fera l'année prochaine, point à la ligne. Il faut être respectueux des normes pour qu'on donne l'exemple de ce qui doit être fait dans un cadre bien défini.
Le salon de Mende, c'est un salon dont vous aviez déjà entendu parler, ou c'est les Sarmentelles qui sont venus vous chercher ?
Alors, pour ma part, c'est les Sarmentelles qui ont toqué à ma porte. Mais alors, moi, j'ai été surpris du premier contact, dans le sens où, du professionnalisme, de la précision. Et ouais, j'ai pas hésité longtemps.
Pour notre part, c'est nous qui avons sollicité l'inscription au salon. Et c'était en cherchant, alors je connaissais pas d'historique, mais c'est en cherchant les salons en Occitanie que j'ai découvert l'association Les Sarmentelles. Et on est ravis de l'avoir fait parce qu'on a été très bien reçus.
Alors juste un petit mot, les Sarmentelles, c'est une association qu'avec d'autres collègues, on avait créée en 2009. Donc c'est pas récent. On a été victime, bien sûr, de la Covid. Vous l'avez vu, on a été obligé d'annuler des éditions. Mais depuis le début, on fait concourir des vins. Par contre, ce qui était gênant, c'est qu'on le faisait, mais sans reconnaissance officielle. Et c'est pour ça, je reviens sur ce concours de 2018. C'est tellement difficile d'avoir des petites villes comme Mende qui sont acceptées chez les grands. L'autre ville qui a un concours d'égal niveau en population, ils sont à plus de 35 000 habitants, alors que nous, on est à 13 000. Donc, vous voyez la difficulté que l'on a. En plus, on n'est pas en zone de production importante. Il y a 5 domaines sur la Lozère. On en a 2 qui sont dans le périmètre entre Florac et Saint-Élémy, un sur les vignes, un à Montlaison, d'ailleurs, qu'on a un représentant sur la place. Et on a également une ouverture qui s'est faite tout récemment au-dessus de Villefort, en direction de l'Ardèche. Mais à côté de ça, rien ne se perd, Mathieu. À côté de ça, c'est vrai qu'on n'a pas un terrain très favorable. On arrive à faire des belles choses dans les gorges. On a de très beaux vins. Mais il nous manque quand même le soleil. Il nous manque cette richesse que l'on a dans en bord de mer ou dans des sols plus profonds où l'altitude est moins importante. Voilà.
Bon. On nous parle un peu du vin maintenant, c'est qu'il a pu être servi, je ne l'ai pas encore goûté, moi j'attends un peu les instructions.
Alors, bon, moi pour parler d'un vin, je ne peux pas m'empêcher de parler de la terre, de là d'où il vient. Parce que finalement, c'est là où je passe la plupart de mon temps, et c'est là où les choses se révèlent à moi, vraiment. Donc la vigne, on va dire les vignes, parce qu'on est sur un assemblage de Syrah et de Grenache, il y a 80% de Syrah, 20% de Grenache. Et la vigne se trouve dans un endroit qui est une ancienne garrigue, un léger coteau, à peu près 5% de pente, exposé plein sud. A priori, quand on y est, très aride. Mais bon, faut pas s'y aux apparences, parce que lorsqu'on creuse un petit peu, bon, il y a de la roche calcaire fracturées. Et dans ces fractures, en fait, il y a des veines d'argile quasiment pures et qui regorgent toujours d'eau, surtout à partir de 50-60 cm de profondeur. Donc en fait, on a une vigne qui trouve son chemin, qui s'installe là-dedans. Et c'est une, on va dire, une anomalie, on pourrait l'appeler comme ça, une anomalie géologique locale, cette présence d'argile quasiment pure à cet endroit-là. Voilà. Et donc cette Syrah, hein, puisqu'il y a une prédominante Syrah, au moment de la vendange, quand on la goûte, si on ferme les yeux, on a vraiment l'impression d'avoir de la mûre dans la bouche, ou même de la cerise bien mûre. Si on fait abstraction de la texture, si on se fie simplement au goût, on ne saurait pas faire la différence. Donc dès le raisin, on a un fruit qui est très concentré dans sa consistance, dans sa texture, et concentré dans ses saveurs. Et c'est évidemment le point de départ qui a inspiré la tourie. Donc de faire un vin qui a cette concentration, alors là il est un tout petit peu frais je trouve, mais qui a cette mâche. Et après l'histoire de, vous le sentez peut-être, il y a un élevage en barrique pendant 12 mois, donc cet élevage sur des vieilles barriques, on est sur des, là, donc c'est un millésime 2022, on est sur des barriques de 2017 qui va permettre de travailler les tanins, d'assouplir ce vin. Pour la suite, hein, parce que la tourie elle est jamais vraiment pareille, millésime après millésime. Évidemment qu'on se rend compte que les habitudes de consommation changent. Tout le challenge, ça va être pour moi de conserver cette densité, ce fruit très prononcé, ce fruit noir très prononcé, mais tout en ayant complètement cette sensation de quelque chose qui n'est pas lourd, qui ne s'impose pas. On pourrait parler d'une forme de légèreté ou peut-être plus de fraîcheur. Voilà.
En tout cas, ici, on s'aperçoit que donc on est sur une vendange à bonne maturité. Déjà, on l'a à la bouche directement. On a quand même ce retour végétal qui est intéressant, qui nous rapproche vraiment de la Syrah, d'Occitanie. Hein. On va pas l'oublier. Ensuite, là, on est quand même sur un millésime 2022. Je suis surpris parce qu'on a encore ce retour un peu alcool en bouche. Ça veut dire que ce vin-là, il faut qu'il évolue. Hein. Il n'est pas tout à fait prêt, à mon sens. On va dire que l'année prochaine, il sera dans de meilleures dispositions que cette année. Mais c'est bien.
Alors moi, j'ai hâte d'être dans 3 ans,
voilà,
pour ouvrir une bouteille dans 3 ans.
Oui, parce que là,
parce effectivement, qu'à mon avis, elle sera... En fait, elle sera bien plus assemblée.
C'est ce qui lui manque. C'est ce qui lui manque un petit peu. Mais déjà, on a une belle mâche, donc ça, c'est intéressant parce que c'est prometteur. On est dans une belle richesse et tout. Mais justement, aujourd'hui, ce vin-là, à mon sens, oui, il est frais. Alors moi, je l'ai un peu réchauffé pour voir si les arômes s'ouvraient davantage. Et effectivement, hein, il est beaucoup plus généreux quand on met ses mains en calice. On remonte d'1 degré ou 2 et on a les parfums qui arrivent enfin. Voilà. Donc, il s'épanouit davantage. C'est un vin qui est intéressant parce qu'effectivement, il le disait, ils sont dans le secteur de Sommières. Et Sommières, il y a plein de particularités géologiques. Et donc, on a une vigne qui a l'habitude d'avoir de l'eau quand même. Hein. Contrairement à quand on est sur Bagnoles ou tous ces coins où on est très dans la roche et avec des vignes qui souffrent. Par contre, là-bas, il va falloir faire attention aussi aux maladies. Hein, parce que ça veut dire aussi que vous êtes plus sujet à ça.
Oui, alors évidemment, on y fait attention. Hein. On va dire il s'agit de notre outil de production quand même.
C'est bien maîtrisé.
Ce que je peux dire sur Sommières, on est au sud des Cévennes. Au nord de la Méditerranée, on a quand même un climat où l'été, on arrive à avoir des températures qui avoisinent les 40 degrés Celsius et on ne connaît pas la canicule à cet endroit-là. Ouais. C'est-à-dire que la nuit, les températures descendent aux alentours de entre 20 et 23 degrés lors de ces journées où il fait 40 degrés en pleine journée. Donc ces grandes variations de température... il semblerait que ça contribue à la particularité de ces vins-là. Et puis, l'influence des Cévennes sur ces pluies cévenoles qui, dont on pourrait pas dire qu'on les subit, au contraire, elles nous font beaucoup de bien. Bon, des fois, elles sont un peu longues, mais en fait, on est sur un terroir des grandes amplitudes. Voilà.
Mais c'est ce qu'on veut faire, on veut expliquer justement que les terres de Sommières sont en train de progresser, parce que c'est grâce à des gens comme Mathieu qu'on va pouvoir mieux les présenter, mieux déjà les préparer pour les amener sur le marché, et également mieux les faire comprendre. Parce que, bon, on va changer carrément de terroir, mais quand on parle par exemple des Malbecs et notamment de Cahors, moi ça m'offusque une personne qui me sert un Cahors qui a 4 ans. Les Cahors, on le sait, c'est première, deuxième année, ou après on les oublie, on les boit quand ils ont passé les 5 ans. Donc à un moment, il faut aussi connaître justement les moments de dégustation de ces vins-là. Et Mathieu le dit, effectivement, dans 3 ans, ça sera la plénitude totale pour un vin comme celui-là.
Oui, justement, alors, on parle de ça, c'est les habitudes de consommation. Maintenant, c'est vrai qu'on garde on garde beaucoup moins les vins qu'avant. Est-ce que ça fait évoluer votre travail à tous les deux, c'est-à-dire que oui, le vin blanc, c'est ce qu'on a dit, c'est que c'est un vin qu'on va pouvoir boire tout de suite, quasiment. Le vin rouge, qu'il faudrait garder un peu plus longtemps. Est-ce que ça fait évoluer votre travail ?
Alors nous, on a fait également 2500 bouteilles d'un vin rouge qu'on a travaillé pour qu'il soit prêt à boire dès le printemps. Donc là, on est à 100% carignan, mais on a très peu travaillé l'extraction. Donc là, en fait, c'est de savoir à l'avance quand est-ce qu'on veut consommer son vin, parce que quand on veut un vin de garde, on va avoir davantage de tanins et qui doivent un peu se fondre dans le temps pour devenir agréable à boire. Là, nous, on a travaillé pour que les tanins soient fondus dès à présent et qu'on travaille beaucoup sur le fruit. Donc nous, en tout cas, ça a directement influencé notre manière de vinifier et les dates de vendange et le travail à la vigne pour avoir des vins rouges qui puissent s'apprécier jeunes.
Par exemple, Massereau également, on a parlé du vin rouge qui est là, mais
fais du blanc. Je fais du blanc, j'ai 6 vins blancs différents. Et alors, je peux parler des vins blancs en répondant à ta question, c'est-à-dire que oui, les habitudes de consommation, alors, il s'agit d'un critère qu'on prend en compte, ce n'est pas le seul. Il vient s'associer à tous les autres critères. C'est pas si simple que ça. Il y a une forme de complexité sur qu'est-ce qui prime. Mais bon, oui, effectivement, à la fin, comme tu l'as dit, Guy, il faut pouvoir le vendre, ce vin. Et moi, les 6 blancs que je fais, alors on va dire qu'ils correspondent à des moments, à des instants de partage ou de dégustation. J'ai le Sauvignon blanc fraîcheur pour l'été. On va dire facile à boire, dans le sens où on n'hésite pas avant d'ouvrir une bouteille, jusqu'à de la roussane qui est vinifiée, élevée en barrique, sur des repas bien plus élaborés, complexes, qui, alors je vais peut-être dire une bêtise en disant ça, tu me diras Guy, mais qui peut peut-être remplacer un vin rouge le jour où on a un magnifique repas et on veut pas ouvrir un rouge, on ouvre un blanc. Voilà. Donc une palette de... C'est vrai qu'en faisant, en ayant plusieurs cépages, moi j'ai 7 cépages sur mes 13 hectares actuellement, on peut jouer... On peut jouer sur des instants de dégustation, tout à fait.
Et peut-être juste pour revenir sur son vin rouge et Clotilde, c'est vrai que on a dit que tu étais aussi œnologue. Peut-être voilà ton avis, toi aussi tu l'aimes bien ce vin, mais en tout cas c'est vrai que j'ai pas forcément votre science de 2-3 ans, mais moi je l'ai trouvé déjà super bon.
Moi, je rejoins ce point de vue aussi parce que je trouve que c'est... Enfin, moi, je suis d'accord que ça peut être un vin qui se boit dès à présent. Je trouve qu'au nez, on a le côté mûr qui est bien présent. Et avec déjà au nez une certaine fraîcheur. Alors moi, ça me fait penser à du menthol, mais je pense que c'est l'impact peut-être de la garrigue à côté. Et tu me disais que tu avais des plantes aromatiques, donc je pense qu'on sent le romarin, le thym. Donc il y a vraiment cette fraîcheur au nez qui, pour moi, en fait un vin qui est tout à fait... alors digeste, c'est en tout cas avec une bonne buvabilité, et cette fraîcheur, on la retrouve en bouche. Et c'est soutenu par une certaine complexité parce qu'on a le côté un peu fumé du bois, mais que je trouve très bien fondu. Hein, ça vient absolument pas masquer le fruit. Donc pour moi, c'est un vin qui peut s'apprécier dès à présent. Et après, la magie du vin, c'est aussi d'avoir plusieurs bouteilles. On s'achète 6 bouteilles, on s'en ouvre une tous les 6 mois et on voit l'évolution. Et avec un vin, on arrive à en avoir plusieurs finalement. Donc moi, je trouve que c'est ça aussi le moment magique.
Merci beaucoup, Clotilde. Donc, je rappelle, du domaine Asquiro. La localité, déjà, je ne l'ai plus notée.
Nos vignes sont à Alignan-du-Vent, vers Pézenas, dans l'Hérault.
Vers Pézenas, toujours dans l'Hérault, mais l'autre côté, du côté de Sommières, Mathieu, qui est venu nous présenter le domaine Massereau et sa bouteille de vin rouge. Et puis, là, on va faire une petite pause musicale avant de reprendre cette émission en direct du Salon du Vin à Mende, cette 17e édition.
task. And as for compensation, there's a little he would ask. Take a woman like you to get through to the man in me. Storm clouds are raging all around my door. I think to myself I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling just to know that you are near. That's my heart a-reeling from my toes up to my ears. The man in me will hide sometimes to keep from being seen, but that's just because he doesn't want to turn into some machine. Take a woman like you to get through the man in me. La 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 la.
Tight like a fight, used to hang with the devil in the broad daylight. We had him root, I walk him bound till we had him root. We're kind of falling out. Show me the low, you showed me the down. Called it the happy lowdown. We used to rock some tunes with a guy named Lloyd. Lloyd still got them Polaroids. You got your fight, leaving him alone in the broad daylight. He might get it on his own. Start building a throne out of worn out razors. Looking shaken, you can't find his plight. Got you scared of ghosts in the dead of night. And while you're making up stories, trying to make it okay, he'll be bringing them in to let them out and play. In the broad daylight, broad daylight. Leaving me alone in the broad daylight. Daylight. In the broad daylight.
Broad daylight.
In the broad day. Please don't leave me alone. Leave me alone in the broad daylight. Your money, you got your night. Just leave me alone up in the
broad daylight.
I need some shit of my own. I need a throne, not them razors. And who you think you are, screaming Hollywood burn. You really wanna stop it, then burn your sperm. Cause this here be going on until it's not. And then a little more broad daylight. Leaving me alone in the broad daylight. Daylight. In the broad daylight.
Broad daylight.
In the broad day, please don't leave me alone. Leave me alone in the broad daylight. In the broad daylight. In the
broad daylight.
Vous nous entendez toujours, on est toujours nous au Salon du Vin et du Terroir de Mende pour cette édition, un salon qui va se terminer jusqu'à 17h, mais vous pouvez encore venir voilà, jusqu'à 17h, ce que nous disait Marie pendant la pub.
Il y a toujours du public et jusqu'à 17h, on sait que ça va très bien tourner, après ben, on laissera couler doucement en roue libre, voilà.
Donc 17h, 17e édition, et on a un nouvel invité autour de la table pendant cette pause musicale. Bonjour Corentin.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter? Vous êtes venu avec une bouteille qui a l'air bien fraîche. On a hâte de la goûter, mais nous présenter un peu justement la bouteille avec laquelle vous êtes venu.
Du coup, moi c'est Corentin Michel, je suis vigneron au bord du lac du Salagou, au Mas Frigoulet. C'est un domaine qu'on a créé en 2018 avec ma compagne, en reprenant une parcelle familiale que mon grand-père avait plantée dans les années 60. Voilà, ça a sauté une génération et nous, en parallèle de nos études et de notre activité professionnelle, on a créé ce domaine en 2018. On a sauté le pas en 2024 pour être à 100% sur les vignes et, se consacrer à cette activité. Et là, la bouteille que j'ai amenée, c'est un 100% Sauvignon, la cuvée Cortés de Bassa, qui porte le nom d'un village en Andalousie où est née la personne qui a planté cette vigne. Voilà. Et donc c'est un 100% Sauvignon frais, sur des notes un peu agrumes. Voilà.
Donc ce sont des vieilles vignes?
Alors là non, c'est des vignes qui ont une trentaine d'années. Voilà, après chacun jugera si c'est des vieilles vignes ou pas, mais ça commence à être des vignes qui rentrent dans l'âge. Ouais.
Ouais, c'est quand même intéressant parce qu'on connaît les vins qui sont produits dans l'Hérault, mais ici avec une production à proximité même du lac du Salagou, ça a quand même une incidence ce lac justement sur les productions tout autour. Et c'est intéressant parce qu'en Lozère, on a la souche même du vrai Sauvignon dans les gorges du Tarn. Et vous le savez, c'est un des meilleurs que l'on a en France. Donc on va pouvoir le mettre un petit peu à l'épreuve là. Mais je n'ai pas de doute parce que ce sont des jeunes qui sont tellement impliqués dans la fabrication, qui sont respectueux de ce qu'ils ont appris et ils le traduisent justement dans le produit qu'ils nous mettent sur la table. Et donc ça, c'est intéressant. Et il me tarde vraiment de le goûter, voir si on peut l'accorder aussi facilement que le fromage de chèvre avec nous. Voilà.
Alors, on va peut-être justement pouvoir commencer à le servir dans les verres pour pouvoir goûter. Pendant ce temps-là, on a une nouvelle personne, un nouvel invité autour de la table qui s'installe avec une nouvelle bouteille qui arrive. C'est super pour nous. Peut-être Guy, tu peux un peu faire la présentation.
Alors, j'aurais pu parler donc de Benoît qui nous arrive. Et c'est Château Fonsalade. Mais on ouvrira une page là-dessus. Bon, il a été médaillé. Je peux dire que, par exemple, l'association Sermentel, tous les mois, le deuxième vendredi de chaque mois, on organise pour les bénévoles des dégustations où j'essaye de leur apprendre les bases même, justement, de ce qu'est un vin et un petit peu toute la conduite autour de ce produit-là, ce produit noble, parce que je pense que c'est quand même un produit noble. Et donc, il y a 15 jours, début du mois d'avril, on a fait une dégustation et on a démarré par un blanc de Château Fonsalade. Et mes collègues, ils ont dit, mais c'est pas possible, le gars, il vient au salon. Je leur ai dit, ben oui, comme beaucoup d'autres. Justement, l'intérêt, c'est que quand on fait une sélection des gens qui viennent sur ce salon-là, c'est qu'on ait un maillage un petit peu de tout ce qui se produit sur ce fameux terroir d'Occitanie. Et ici, on a vraiment des petites appellations, des petits domaines. On évite absolument les grands distributeurs, ils n'ont pas besoin de nous parce qu'il n'y a pas une grande richesse au travers de ce qu'ils produisent et puis il y a une trop grande régularité. Moi, ce que je cherche dans un vin, c'est que même que l'on ait la même appellation, la même zone de production et tout, mais que d'une année à l'autre, on ait cette différence du millésime, quelque chose qui nous amène enfin une richesse. Et donc voilà, l'un comme l'autre, ce sont des gens qui s'attachent à respecter justement cette production. Mais peut-être qu'on va laisser Corentin nous parler un petit peu de son Sauvignon. Vas-y, dis-nous alors.
Du coup, c'est, je pense, un Sauvignon frais qui dénote un peu avec les blancs qu'on peut avoir parfois sur la plaine de l'Hérault, le littoral. Il a conservé une belle acidité, de la fraîcheur. Et on retrouve un peu quelques notes agrumes typiques du Sauvignon. Voilà.
Alors, quand même, on a un Sauvignon qui est avec une couleur très marquée. Hein. En général, les Sauvignons, quand on les connaît, ils sont beaucoup plus pâles et un tout petit peu vert, enfin, qui ont une tendance à aller sur le vert, alors qu'ici, on est quand même une richesse de couleurs.
Oui.
On n'est plus sur du miel, quand même.
Ouais, hein. Ouais.
Voilà. Après, donc, ça nous indique déjà qu'on a un peu plus de douceur, voilà, et de longueur en bouche.
C'est ça.
Voilà. Donc là aussi, quelque chose enfin à découvrir et quelque chose qui peut nous apporter une nouveauté sur nos petites salades ou surtout nos fromages, parce qu'à Lozère, on est riche de ceci. Et nos chèvres, eh bien, on va les laisser vieillir un peu plus pour déguster ça.
Je dirais qu'il faut le rappeler, des fois, on a un peu le cliché de se dire fromage, vin rouge, mais pas du tout en fait.
En fait, j'ai horreur qu'on me serve des vins rouges, par exemple, avec des fromages gras, qu'ils soient de vache ou autre, parce que je trouve que ça ne va pas du tout. Pour apprécier 100% par exemple des Roquefort ou autres, il faut un vin blanc qui soit un petit peu gras lui aussi. Après, pour les apéritifs, j'aime bien avoir quelque chose de direct, c'est-à-dire dès qu'on le met en bouche, qu'il nous prenne sur le devant de la langue, quelque chose qui nous marque comme ça. Et ça veut dire qu'à chaque phase dans un repas ou d'une rencontre, il faut qu'on ait le vin qui colle un petit peu à cet espace-là. Moi, j'ai jamais mangé une blanquette avec un vin rouge. Une blanquette de veau, c'est forcément avec un vin blanc. Alors même s'il est un peu oxydé, ça ne me dérange pas. Mais que ce soit un vin blanc, et qu'il y ait une logique quand même là-dessus.
Corentin, peut-être pour revenir, vous l'avez dit au tout début, mais cette installation, c'est la reprise des terrains du grand-père, mais vous étiez encore en études, ou voilà, au début c'était avant de le faire de manière professionnelle à 100%, ça s'est fait comment justement cette idée-là de se dire allez, on tente l'aventure alors qu'on est, on est jeune et, ouais, et on y va.
Je faisais des études viticoles,
ah oui,
et à la fin de mes études, la personne qui entretenait la parcelle de vigne que mon grand-père avait léguée à ma mère m'a proposé de la reprendre. Et donc, du coup, j'étais toujours étudiant et déjà vigneron. Et du coup, j'ai été embauché par un domaine viticole dans le Pic-Saint-Loup. Et voilà, pendant 3-4 ans, j'ai développé mon activité à côté, replanté des vignes, racheté des vignes sur mon village, en plus de cette parcelle familiale. Et puis ensuite, je me suis rapproché de nouveau, travaillé pour un patron et un domaine viticole plus proche du Salagou. Et voilà, tout en continuant mon activité en parallèle. Et 2024, c'était le moment de sauter le pas. Et l'outil de travail que j'avais constitué et commencé à établir commençait à être viable. Et c'est comme ça qu'on a sauté le pas. C'est la passion qui nous animait depuis la fin de mes études, et donc voilà.
Mais je pense que Benoît a quelque chose à nous dire un petit peu, c'est l'autre viticulteur, c'est Faux Salade. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait de ce fameux Sauvignon.
Bonjour à tous, donc moi c'est Benoît, donc directeur du Château Faux Salade. Je tenais à féliciter Corentin parce que son Sauvignon est vraiment très, très frais et très dans l'air du temps. Et je trouve que la jeunesse viticole, on est en train de se battre justement pour avoir des profils de vin comme ça qui puissent séduire tous les palais sur la vivacité, sur la fraîcheur. Et je trouve ça très très bien et très élégant. Voilà.
Merci beaucoup.
Justement, peut-être on peut prendre le relais avec toi, plaisir. Benoît. Là aussi, vous êtes venu avec une cuvée du Château Faux Salade. On l'a en face de nous.
Voilà, donc la cuvée du Château Faux Salade. Donc déjà, pour remercier Guy aussi et les Sarmentelles, donc et leur groupe donc pour l'organisation donc de ce salon qui est très très familial et très jovial. Voilà, donc nous on monte, c'est la deuxième année donc on fait le salon. Et voilà, donc la cuvée F, le profil vraiment de l'aire d'appellation donc Saint-Chinian. On est sur la commune de Roquebrun, donc voilà, au coteau de schiste, avec des profondeurs de sol très faibles et très rocheuses. Voilà, donc la Syrah et le Grenache qui s'expriment, et la pointe de Mourvèdre donc qui va apporter un côté un peu frais, un peu fraîcheur mentholé, un peu poivré épicé. Voilà, donc d'avoir pareil un peu dans le profil du blanc, un vin qui soit assez facile à boire, mais voilà, un peu avec un peu plus de sérieux, donc voilà, pour avoir un rouge qui puisse plaire à tout le monde. Voilà.
Alors en fait, ce vin-là a été primé hier. C'est ce qu'il oublie de dire. Faux Salade, alors peut-être que tu pourrais nous dire un petit peu l'endroit exact où c'est que c'est ce domaine.
Donc le domaine se situe sur Cosse et Véran, donc on a 36 hectares en production. Un gros îlot de vignes donc, sur des terroirs un peu plus en hauteur, donc sur Roquebrune, donc de 8 hectares. Et voilà, donc on travaille beaucoup sur, donc, ouais, au niveau de la vallée de l'Orbe, on travaille beaucoup sur la fraîcheur par rapport à nos fortes pentes, la buvabilité. Voilà, on va rechercher d'avoir beaucoup de gourmandises de fraîcheur, que ce soit des vins qui puissent, que tout le monde puisse découvrir et déguster.
Je crois que c'est intéressant parce que finalement, Saint-Chinian, on avait un peu une image très standard hein, de cette appellation-là. L'année dernière, déjà, il avait commencé à nous présenter le profil vers quoi il voulait s'acheminer et tout ceci. Il confirme avec un vin comme celui-ci. On est dans un rajeunissement de cette appellation avec une modernité là aussi qu'on évoquait tout à l'heure. On commence à avoir une mutation dans le produit qui va être sur le marché. On sent la base quand même, toujours de ce terroir, mais on sent cette nouveauté qui nous arrive petit à petit dans le verre. Et ça, c'est ce qu'on attend finalement.
On a beaucoup travaillé sur les techniques viticoles, les méthodes culturales changent par rapport au climat et à nos terroirs. Les méthodes de vinification aussi, on a beaucoup travaillé sur le matériel, donc sur la technique de vinification. Et voilà, donc c'est en train de payer. On est plutôt content des résultats. Voilà.
Parce que là, on parle de modernité, mais c'est quoi exactement la modernité ? C'est qu'on va changer par rapport au goût, par rapport à la façon dont on travaille, et ce que ça va apporter au vin ? C'est que ça va être des vins plus légers ? C'est quoi la modernité ?
On a donc au niveau des maturités phénoliques, déjà on a des terroirs qui pour arriver à maturité phénolique, on est obligé donc de pousser, d'arriver justement à ces maturités. Voilà, on recherche toujours à acquérir ces maturités. On travaille beaucoup avec le froid, donc pour contrecarrer justement ces côtés chauds et alcooleux qu'on pourrait avoir sur nos vins, tout en gardant la structure, la rondeur et la gourmandise des vins. On a travaillé donc avec le Carignan, qui est un cépage assez rustre, mais qui est méridional, qui est très bien implanté par rapport à notre climat et à notre terroir. On travaille la macération carbonique sur le Carignan. C'est une méthode de vinification qui est quand même assez ancienne. Mais voilà, on la travaille différemment. Donc on pousse un peu moins les macérations, mais vraiment pour extraire donc la fraîcheur et le fruit et avoir des tanins très fondus. Donc on peut remettre donc au goût du jour des vieux cépages qui étaient presque oubliés et qui étaient un peu dénigrés. Mais par rapport avec des techniques de vinification et des méthodes de travail, on arrive à les remettre vraiment au goût du jour. Et c'est par exemple un vin qui est très facile pour initier les jeunes sur les vins rouges. Voilà.
Quand on regardait les Saint-Chinian auparavant, c'était quand même des vins qui étaient plutôt épais, je dirais, qui étaient à tendance un peu purée à l'œil. Hein. Je prends des mots simples, voilà, plutôt à tendance très, 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 très épais. Et aujourd'hui, quand vous regardez votre verre par le dessus, eh bien, en fait, on est sur de la brillance, mais pas extraordinaire. Par contre, on a une belle limpidité. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse, parce que ça veut dire qu'on s'achemine davantage sur les saveurs des fruits. Ou la palette aromatique que vous évoquiez tout à l'heure. Donc, on va voir si on est ou sur plutôt du petit fruit rouge, les groseilles, ou de la framboise, ou alors après, si on va carrément glisser sur ou de la griotte, voire même après les mûres, etc. Et c'est ça aussi l'évolution de ce que l'on recherche dans les vins pour arriver à mieux les accorder. Avant, on avait un goût un petit peu standard. Et aujourd'hui, même dans une même appellation et même dans un domaine unique, on va avoir à 2 ans, 3 ans d'écart des millésimes qui vont avoir des saveurs de base un peu différentes.
On va bientôt arriver à la fin de cette émission, mais peut-être juste avant, évoquer avec, vu qu'on a la chance d'avoir deux vignerons autour de nous, évoquer un peu le contexte. On le disait aussi que les gens, on a toujours tous les ans des études qui montrent que les Français, par exemple, ils boivent de moins en moins de vin. Vous, c'est l'idée de se dire, s'ils en boivent de moins en moins, c'est peut-être de mieux en mieux aussi, faire différemment. Je crois qu'il y a même aussi des hectares de vignes qui, petit à petit, on les enlève avec une petite compensation de l'État pour justement essayer de pallier à ce changement de marché. Vous le vivez comment, ça ? Vous dites, on a encore notre épingle à jouer en tant que jeune viticulteur ? Je sais pas qui veut...
La crise liée depuis très longtemps, et on a l'impression que c'est des crises qui s'enchaînent. Les solutions qu'on nous apporte, elles sont très fantomatiques, pour ma part, je trouve. Voilà, donc je pense que c'est le travail de chacun. de pousser toujours vers l'excellence, d'essayer de toucher un maximum de personnes aussi, parce qu'on revoit qu'il y a quand même des jeunes qui reviennent sur le vin. Et je pense que voilà, il faut s'ouvrir, il faut aller chercher, il faut aller découvrir. Il faut rester aussi dans nos standards, donc de l'ère d'appellation, mais en ayant en créant des vins plus dans l'ère du temps et qui peuvent ouvrir les papilles de nos plus jeunes générations.
Mais si je peux me permettre, peut-être aussi, il y a aussi cette notion de prise de conscience de l'environnement qui s'applique de plus en plus dans ce milieu. Il y a un retour déjà aux vraies valeurs d'une part, mais après, bon, on a parlé du bio, mais on peut parler de l'agriculture raisonnée. Moi, je suis un fervent défenseur de cette agriculture raisonnée et du logo Déméter, parce que pour moi, ça me paraît être la Rolls. Quand on est là-dedans et qu'on a ce logo, ça veut dire qu'on est vraiment très, très impliqué et qu'on comprend les évolutions. Donc, il y a peut-être ça qui a obligé les gens à aller vers quelque chose de meilleur, dans une certaine transformation. Mais moi, je vous admire parce que quand on voit la difficulté aujourd'hui de mettre des produits sur le marché avec toute la réglementation, il ne faut pas oublier que c'est très, très compliqué, hein, cette réglementation-là, aussi bien au niveau de la fabrication que la distribution. Un viticulteur, c'est une série de métiers à la fois, hein, parce qu'il faut qu'il sache jardiner, je veux dire, s'occuper de la terre. Il faut qu'ils sachent tailler, il faut qu'ils sachent faire de l'œnologie. Il faut également qu'ils soient un peu sommeliers, parce que dans les rencontres pour présenter le vin, il va falloir aussi en parler. Donc en fait, il est aussi un commercial. C'est dingue, parce que lorsqu'ils se lancent, je ne sais pas si tous ont conscience de cette immensité de métiers qui se greffent autour d'eux et de la tâche considérable. Parce qu'aujourd'hui, bon, on le voit, les États-Unis ont créé de sérieux problèmes, ça a bousculé le marché du vin, hein, des exportations, etc. Ça, il ne faut pas le nier. L'année d'avant, il y a eu des incidences climatiques. Vous savez, il faut vraiment avoir la foi pour continuer à travailler là-dedans. Alors, chapeau, bravo. Et puis, moi, je trouve que si quelques-uns parmi vous, vous gagnez bien votre vie, ben, c'est vraiment mérité. Et ça, il faut aussi le dire, on ne travaille pas pour la gloire. Il faut quand même aussi avoir du résultat à la sortie. Et se construire un petit patrimoine en terre, en bien, en réputation, tout ceci. Mais moi, je vous félicite. Vraiment.
Merci. Merci. Si justement, vous aussi, vous voulez féliciter, comme Guy, nos vignerons, vignobles présents pour ce Salon du Vin, vous pouvez venir encore jusqu'à 17h. Aujourd'hui, là, si vous nous écoutez, vous n'êtes pas loin de Mende, venez à l'espace événement Georges Fraîche pour goûter les vins, discuter avec toutes les personnes présentes pour cette 17e édition. Merci beaucoup encore pour l'accueil, Guy, et pour votre expertise.
Et merci à 48FM, c'est bien sûr à souligner, puisque vous êtes là depuis très longtemps, depuis bien des éditions, et on vous remercie pour votre sympathie, votre souplesse également.
Et puis, on voudrais remercier les quatre invités qu'on a pu avoir, Clotilde, Mathieu, et puis donc là, Corentin du Mas Frigoulet au Puech, et Benoît du Château Fonsalade. Merci à vous pour aussi votre expertise, et nous avoir fait montrer, goûter vos bouteilles. Merci beaucoup Eric.
Merci, à bientôt.
Et puis à la technique, on avait Ludovic. Merci à Ludovic. Et puis donc à la prochaine, ça sera la 18e édition l'année prochaine.
Comme on dit à Lozérien, à Longuebé.
Allez, fin de journée.
Merci.